Enfin, après tant d'années, l'heure de la délivrance a sonné. Voilà près d'un an que Pharaon résiste à la demande de Dieu, par la bouche de Moïse, de laisser aller son peuple. Mais ce soir, le 14e jour du premier mois de l'année, ce soir, alors que les Hébreux célèbrent la première Pâque, Dieu va frapper l'Égypte de la plus terrible des plaies, la 10e, la mort des premiers-nés égyptiens, et Pharaon va capituler. Il va jeter l'éponge, il va s'avouer vaincu, il va plier le genou devant la souveraineté du Dieu d'Israël. Et alors qu'il avait dit à Moïse de ne plus paraître devant sa face, sinon il mourrait, Pharaon le fait appeler au milieu de la nuit pour lui dire de partir, lui et le peuple. L'heure de la délivrance a bel et bien sonné. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël va vivre ce qu'on appelle communément l'Exode, c'est-à-dire littéralement la sortie de l'Égypte, bien entendu. Et je vous invite à lire un premier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les versets 29 à 42. Exode, chapitre 12, versets 29 à 42. En pleine nuit, le Seigneur frappa tout premier-né en Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans son cachot, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous les gens de sa cour et toute l'Égypte. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Il appela de nuit Moïse et Aaron et leur dit, « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. » Prenez aussi votre petit bétail et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. L'Égypte pressait le peuple. Ils avaient hâte de les faire partir du pays, car ils disaient, nous allons tous mourir. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Le Seigneur donna au peuple de la grâce aux yeux des Égyptiens. Ceux-ci accédèrent à leurs demandes. Ainsi, ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot, une infanterie d'environ 600 000 hommes, sans compter les familles. Une importante population mêlée monta aussi avec eux, avec des troupeaux considérables de petits bétails et de gros bétails. Ils firent des galettes cuites sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder pour se faire des provisions. Les Israélites avaient habité 430 ans en Égypte. Au bout de 430 ans, ce jour même, toutes les armées du Seigneur sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, parce qu'il les fit sortir d'Égypte. Pour tous les Israélites, dans toute leur génération, c'est une nuit de veille pour le Seigneur. Il n'est pas sûr que l'autorisation de partir, donnée par Pharaon aux Israélites, concerne plus que le fait d'aller offrir des sacrifices dans le désert à 3 jours de marche. C'était en tout cas la demande initiale qui avait été formulée. Souvenez-vous, c'est au chapitre 5, je lis les premiers versets. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'ils célèbrent une fête pour moi au désert. » Et puis un peu plus loin, « Laisse-nous, je te prie, faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur, notre Dieu. Et il semble bien que ce soit à cette demande que Pharaon accède maintenant au verset 31, quand il dit « Allez, servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. » Et comme la suite du récit va le montrer, Pharaon n'est pas vraiment prêt à tirer définitivement un trait sur cette main-d'œuvre gratuite. L'heure de la délivrance correspond à l'heure du départ pour le peuple. C'est l'heure de quitter l'Égypte, l'heure de la sortie, l'heure de l'Exode. Pour célébrer la Pâque, nous l'avons vu la dernière fois, ils avaient dû garder leurs sandales aux pieds, ils avaient dû garder leur ceinture aux reins et leur bâton à la main. Ils étaient en mode départ, dans l'attente de la délivrance, prêts à partir. Et le moment de partir est arrivé. Ils rassemblent rapidement quelques affaires, pas le temps de faire des provisions, dit le verset 39. Mais surtout, ils demandent aux Égyptiens de leur donner des richesses et des vêtements, conformément à ce que Dieu leur avait dit de faire. En réalité, dès le buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 22, Dieu avait annoncé que cela se passerait ainsi. Il l'avait d'ailleurs redit lors de l'annonce de la dixième plaie, Exode 11, verset 1 à 3. Cet événement incroyable, improbable, était préparé par Dieu. Et d'ailleurs, de bien plus loin encore, puisque déjà à Abraham, Dieu avait dit que sa descendance quitterait le pays où elle allait être esclave pendant 400 ans avec de grands biens. Genèse 15, verset 14. Ces richesses, beaucoup les considèrent ainsi, sont un juste retour, une juste compensation après toutes ces années d'esclavage et de spoliation. À ce stade du récit, les Égyptiens ne veulent qu'une chose, que les Hébreux s'en aillent, qu'ils partent, qu'ils quittent le pays. Et on peut presque les entendre dire, prenez tout ce que vous voudrez, mais fichez le camp. Verset 33. Ah, il n'est pas là. Verset 33, l'Égypte pressait le peuple, ils avaient hâte de les faire partir du pays, car ils disaient, nous allons tous mourir. Et c'est donc ainsi que les Hébreux sont partis, sont sortis de l'Égypte. Et au verset 37, nous lisons qu'il y avait en tout une infanterie de 600 000 hommes, sans compter les familles. Ce chiffre de 600 000 hommes est vraisemblablement arrondi. Plus loin dans le livre, au chapitre 38, il est question précisément de 603 550 hommes de plus de 20 ans. 600 000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les familles, nous amène à une estimation, grosso modo, d'environ 2 millions d'individus, femmes et enfants compris. Alors ces chiffres, vous le savez peut-être, ont été beaucoup débattus et le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Et il est impossible de faire le tour de la question ce matin. Mais ce que je voudrais simplement dire maintenant, c'est que même s'ils paraissent très grands, ces chiffres sont plausibles. Les calculs ont été faits pour montrer qu'avec toutes les générations qui se sont succédées, ce n'est pas impossible. Et ils sont d'autant plus plausibles si on considère qu'ils traduisent la multiplication miraculeuse du peuple dont il est question au début du livre de l'Exode. Souvenez-vous, chapitre 1, verset 7 et verset 20, les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en fut rempli. Dieu fit du bien aux sages-femmes, le peuple se multiplia et devint très fort. C'est Dieu qui a fait croître son peuple ainsi. et il l'a fait en accomplissement de la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob de faire de leur descendance une grande nation. On ne va pas lire les textes, mais vous les trouvez dans le livre de la Genèse. En fait, ce qui est en jeu ici, avec ces grands chiffres, ce n'est pas tant ce qu'ils représentent numériquement, mais le rapport que nous avons avec le texte biblique. Quelle est sa nature pour nous ? Quand je lis ce récit de l'Exode, est-ce que je l'accueille comme de l'histoire ou est-ce que je l'accueille comme de la mythologie ? Ceux qui contestent ces chiffres contestent souvent tout ce qui est surnaturel, miraculeux dans la Bible, pour n'en faire que des mythes. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle nous rapporte l'histoire du salut que Dieu a réalisé, a inscrite dans l'histoire des hommes et dans laquelle il est souvent intervenu par des prodiges. Il est le grand Dieu qui fait de grandes choses et nous croyons que ces choses sont vraies. Au moment du départ, nous lisons qu'une importante population mêlée s'est jointe aux Hébreux. Verset 38, une importante population mêlée monta aussi avec eux, avec des troupeaux considérables de petits bétails et de gros bétails. Et il s'agit sans doute ici d'un ramassis de gens qui a voulu profiter de l'occasion pour fuir l'Égypte. Il devait avoir toutes sortes de raisons pour cela, et il devait y avoir dans ce ramassis de gens toutes sortes de personnes différentes, peut-être d'autres esclaves, de toutes sortes de nationalités, peut-être des Égyptiens mécontents du régime, qui en profitaient pour aller voir d'autres cieux. Peut-être des Égyptiens qui s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël. Ce ramassis de gens part avec le peuple et nous verrons par la suite, pas aujourd'hui, mais une autre fois, qu'ils causeront bien des soucis à Moïse. Pour l'heure, cette donnée de la présence d'étrangers au sein du peuple fait que Dieu va dans les versets suivants que nous n'allons pas considérer ce matin, va compléter les prescriptions pour la Pâque. Parce que la présence d'étrangers modifie un petit peu les choses et les versets qui suivent, vous pourrez regarder ça tranquillement à la maison, donnent des détails pour l'encadrement de ces étrangers au sein du peuple d'Israël. Soulignons encore pour finir ce deuxième point que la durée totale du séjour en Égypte est de 430 ans, verset 41. Et si nous remontons jusqu'au livre de la Genèse, chapitre 15, verset 13, quand Dieu dit à Abraham que ses descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur, qu'ils y seront esclaves et affligés, il est question là de 400 ans, ce qui semble être le chiffre arrondi de ces 430 ans. Paul aux Galates reprendra le chiffre de 430 ans. Le troisième point que j'aimerais vous proposer maintenant concerne le chemin que les Israélites ont pris pour partir. Et nous avons une première indication géographique au verset 37. Nous lisons « Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot ». Et les autres indications géographiques nous sont données dans le texte que nous allons lire maintenant. C'est la suite du récit, Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait prêter serment aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Soukhot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Le Seigneur marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les conduire sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Qu'apprenons-nous ici ? Nous apprenons que Dieu ne leur a pas fait prendre le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est le chemin qui longeait la côte. C'est le chemin du pays des Philistins, verset 17. Et si nous prenons une carte, nous pouvons visualiser le chemin le plus court, c'est la ligne verte qui part du pays de Goshen, ici, Soukhot est ici, et qui monte directement en longeant la côte vers le pays de Canaan. Dieu ne leur a pas fait prendre ce chemin-là. C'était pourtant le plus court. Et la question qui se pose est la suivante: pourquoi Dieu ne les a-t-il pas conduits par ce chemin le long de la côte, par ce chemin le plus court? Et nous avons une raison qui nous est donnée au verset 17, nous l'avons lu: lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche, car Dieu disait: le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. En effet, ce chemin côtier, et ça se comprend facilement, était jalonné de forteresses tout du long. Ici, c'est le désert, c'est plutôt inhospitalier et difficile à traverser. Et les invasions qui venaient du nord venaient systématiquement par là. Donc il y avait toute une série ici de forteresses égyptiennes qui étaient là pour empêcher les invasions du nord. Et ainsi, en ne les conduisant pas par le chemin du nord, par le chemin le plus court, Dieu a voulu préserver son peuple de combats qui auraient été inévitables et qui auraient pu pousser les Israélites à vouloir retourner en Égypte. À cette raison stipulée dans notre texte, nous devons en ajouter au moins une autre, dont nous avons parlé il y a quelque temps. Dieu ne fait pas passer son peuple par là, mais par là, parce qu'ici, il y a le mont Sinaï, et que Dieu a dit qu'il voulait emmener là son peuple. Souvenez-vous, c'est l'épisode du buisson ardent, chapitre 3, verset 12, Dieu dit à Moïse: « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Il fallait donc passer par là. Hop. Il fallait donc passer par là. Notons ici qu'il y a eu et qu'il y a encore d'innombrables débats autour de cette question de l'itinéraire. Pour toutes sortes de raisons, c'est vraiment, il y a des bouquins entiers, donc on ne va vraiment pas aller au bout de cette question, mais en particulier parce que certains des lieux qui sont mentionnés dans le texte de l'Exode ne sont pas identifiés aujourd'hui, en tout cas pas identifiés avec certitude. Alors, il y a une certitude pour Soukhot, donc ça apparaît sur la carte, mais les lieux qui sont mentionnés après, dans le texte que nous allons voir dans un instant au chapitre 14, Pi-Hiroth, Migdol, Étham, Baal-Tsephon, on n'a pas vraiment, on a des hypothèses, mais on ne sait pas. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là, on ne sait pas trop. Et c'est la raison pour laquelle il ne figure pas sur la carte. Il faut ajouter à cette problématique toute la question de l'identification de cette fameuse mer des joncs dont il est question dans le texte. Et la tradition veut que ce soit la mer Rouge qui est ici, et donc ça serait quelque part par là, sans doute, que le peuple aurait traversé. Est-ce bien le cas ? Est-ce que la mer des joncs, c'est la mer Rouge ? Ou alors, est-ce que la mer des joncs, c'est les lacs qui sont appelés les lacs amers et qui sont ici? Et puis, à quel endroit le peuple a-t-il traversé? A-t-il traversé ici? A-t-il traversé ici? A-t-il traversé là? Certains font même traverser ici, en plaçant le mont Sinaï ici. Enfin, on a des hypothèses qui vont dans tous les sens. Et ces questions que je pose ne sont qu'une toute petite partie des questions qui existent. L'hypothèse, pour faire court, la plus sérieuse, à mes yeux en tout cas, c'est l'hypothèse classique, l'hypothèse traditionnelle, qui est fléchée en rouge ici, à quelques variantes près et qui sont possibles, et qui fait longer ensuite le peuple par la mer Rouge ici jusqu'au mont Sinaï, avec peut-être la mer des joncs identifiée au lac amer et une traversée ici. C'est en tout cas suffisamment profond ici pour expliquer tout ce qui se passera par la suite. Nous pouvons noter et nous devons noter qu'au-delà des prescriptions, des précisions pardon, géographiques, ce qui est important ici et ce qui est important pour nous, c'est le fait que Dieu, que c'est Dieu qui a conduit le peuple par cet autre chemin. C'est important de le rappeler. Par la colonne de nuée le jour, par la colonne de feu la nuit. Cet autre chemin qu'on a du mal à préciser est le chemin que Dieu a fait prendre au peuple. Et puis nous pouvons noter qu'au-delà des précisions géographiques, ce qui est important ici, c'est que la suite du récit ne peut s'expliquer que par une intervention divine. Où que vous placiez la traversée, que ce soit la mer Rouge ou que ce soit les lacs amers, il faut une intervention divine. Et au final, peu importe où cela a vraiment lieu. Ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui a ouvert les eaux pour que le peuple puisse passer. Ce qui est important, c'est qu'il y avait suffisamment d'eau pour que, une fois que les eaux se referment, l'armée de Pharaon soit noyée. Ce qui importe, c'est que Dieu est intervenu. Et parce que Dieu est intervenu, tout devient possible, même ce qui nous paraît impossible, même ce qui est rationnellement impossible. Nous poursuivons notre récit et nous arrivons à notre quatrième point qui concerne la poursuite par Pharaon des Israélites. Je continue la lecture au chapitre 14, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux Israélites qu'ils reviennent et qu'ils campent devant Pi-Hiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Tsephon. C'est devant cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, « Ils errent dans le pays en pleine confusion, le désert s'est refermé sur eux. » Je ferai en sorte que le Pharaon s'entête, il les poursuivra, mais je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Ainsi firent-ils. On dit au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et des gens de sa cour changèrent à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait ? En laissant partir Israël, alors qu'il était à notre service. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Sur chacun d'eux, il y avait un équipage de 3 hommes. Le Seigneur fit en sorte que le Pharaon, le roi d'Égypte, s'entête. Il poursuivit les Israélites alors que les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses attelages et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hiroth, en face de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. » Comme pour les 10 plaies, le cœur de Pharaon va à nouveau s'endurcir. Et il va se lancer à la poursuite du peuple d'Israël. Ça sera l'occasion pour Dieu de se glorifier au moyen de son armée, au moyen de Pharaon et de son armée. C'est ce que nous lisons au verset 4. « Je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée. » Notons ici que le texte ne précise à aucun moment combien de temps s'est écoulé depuis le départ des Hébreux. Il semble évident qu'il s'est au moins écoulé plusieurs jours. On ne bouge pas un peuple de 2 millions comme ça. Et puis, il y a quand même un peu de distance. Quelle que soit l'hypothèse de la traversée, il y a quand même un peu de distance. Il y a des troupeaux, il y a des enfants, il y a des chariots, ça prend du temps. Nombre 33, verset 4, précise que les Égyptiens enterraient leurs morts alors que le peuple partait. Il a fallu pleurer les morts, il a fallu les embaumer, en tout cas les préparer, et il a fallu les enterrer. Il s'est donc forcément passé plusieurs jours, peut-être même plus d'une semaine, depuis le départ des Hébreux, au moment où Pharaon se lance à la poursuite du peuple. Une fois que l'onde de choc de la 10e plaie commence à s'estomper, Pharaon semble soudain prendre conscience de l'erreur qu'il vient de faire, de la main-d'œuvre gratuite qu'il vient de perdre. Verset 5, on dit au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et des gens de sa cour changèrent à l'égard du peuple. Ils dirent : « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël alors qu'ils étaient à notre service ? » Et Pharaon décide de rassembler son armée. C'est une armée puissante. C'est l'armée la plus puissante de l'époque. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et les 600 chars d'élite dont il est question, ce sont nos chars Leclerc d'aujourd'hui. Ce sont nos F-16 et compagnie. C'était le top du top. Et c'est ainsi que Pharaon se lance à la poursuite des Israélites qui l'avait laissé partir libre. Verset 8. Alors imaginez un instant la situation dramatique pour Israël qui est en train de se mettre en place. D'un côté, nous avons un peuple nombreux, sans aucune expérience au combat, ralenti par les femmes et les enfants et le bétail en nombre, avec, on imagine, une organisation de la nation qui ne s'est pas encore mise en place. Donc ça doit être un joyeux bazar, pour dire les choses poliment. Et de l'autre côté, vous avez l'armée la plus puissante du monde avec un esprit de revanche. Pour assombrir un peu plus le tableau, il se trouve que le chemin des Hébreux est maintenant bloqué par la mer. Impossible d'avancer, à moins de pouvoir marcher sur l'eau, mais ça, c'est pas encore. Impossible de reculer, l'armée de Pharaon arrive. Ils sont faits comme des rats. Et la fête de la délivrance, la fête de l'Exode est en train de tourner court et est en train de virer au cauchemar. Et on imagine assez facilement la crainte, la panique, la terreur qui a dû s'emparer du peuple à ce moment-là. Et nous lisons au verset 10, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens s'étaient lancés à leur poursuite, les Israélites eurent très peur. Le peuple est terrorisé, mais qui ne l'aurait pas été? Et que fait-il? Il crie à Dieu. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait se tourner vers Dieu. Et puis, il fallait s'attendre à lui. En silence, peut-être? Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Malheureusement, non. Au lieu d'attendre en silence le secours du Seigneur, le peuple s'est mis à murmurer. Alors là, c'est le début de murmures qui vont s'enchaîner par la suite. Le peuple s'est mis à faire des reproches à Moïse. Nous les avons lus. Versets 11 et verset 12. « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert? Qu'as-tu fait? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? On te l'avait dit, Moïse. Et maintenant, on fait quoi, Moïse ?» Dans les difficultés, la solution de facilité, c'est souvent de trouver un bouc émissaire. On appelle ça une tête de Turc. Et Moïse va en faire l'expérience, ici et souvent par la suite. Que répond Moïse? Versets 13 et 14, Moïse répond, « N'ayez pas peur. » Bon, c'est vite dit. « Tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. » Ce que Moïse dit ici, il y aurait bien des développements à faire, se résume en une phrase, il leur dit, « Ayez confiance. Ayez confiance. Faites confiance au Seigneur. » Il est temps de terminer avec quelques brèves leçons. J'aimerais maintenant, après avoir brossé à grands traits le tableau des événements de cette sortie de l'Égypte, j'aimerais souligner quelques leçons. Et j'aimerais avant cela que nous nous souvenions d'un verset du Nouveau Testament, un verset de l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul parle de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et il dit, au sujet de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, « Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » Écrit pour notre instruction. La première leçon que j'aimerais souligner est simplement le rappel, pas besoin de développer beaucoup, que Dieu tient toujours ses promesses. Nous avons vu à plusieurs reprises ce matin comment ce qui s'est passé lors de cette sortie de l'Égypte s'est inscrit à la suite de ce que Dieu avait dit, de ce que Dieu avait promis, et parfois de longue date, puisqu'on est remonté à plusieurs reprises, jusqu'à Abraham. Et on aurait pu lire bien des textes, Abraham, Isaac, Jacob. Vivre par la foi, c'est vivre non seulement des promesses que Dieu a déjà réalisées, mais aussi de celles dont nous attendons la réalisation. Et l'exode d'Israël hors d'Égypte nous rappelle que Dieu tient toujours ses promesses. C'est la première des leçons. La deuxième leçon que je tire de notre récit, c'est que le chemin le plus facile n'est pas toujours ou pas forcément celui de la volonté de Dieu. Nous aimerions que ce soit souvent le cas. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est lui qui a la vision d'ensemble. C'est lui qui a toutes les cartes en main. Notre vision est limitée et elle fait que nous avons souvent tendance à penser que le chemin le plus court, le chemin le plus facile, le chemin le plus évident, c'est forcément la volonté de Dieu. Et c'est forcément ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais le texte de ce matin nous rappelle que parfois le chemin le plus long, le plus difficile, est la volonté de Dieu pour nous. Attention donc à ne pas passer, alors c'est une expression qu'on dit parfois, ne pas passer par la fenêtre quand Dieu ferme la porte. c'est-à-dire à ne pas s'entêter dans une voie quand il est évident que la volonté de Dieu est ailleurs. Mais nous, on aimerait y aller parce que c'est plus court, parce que c'est plus facile. Alors on force les choses et on se retrouve parfois dans des situations inextricables. La troisième leçon que je voudrais souligner ce matin, c'est que Dieu nous conduit parfois dans des impasses. On n'aime pas ça. C'est bien Dieu, c'est bien la colonne de nuée et la colonne de feu qui a emmené le peuple droit vers la mer, droit dans ce cul-de-sac, droit dans cette impasse. Nous avons tendance à penser et à vouloir que la volonté de Dieu se manifeste autrement dans notre vie. Et nous aimerions que la volonté de Dieu se traduise toujours par le dégagement de notre horizon, l'éclaircissement de notre horizon, l'aplanissement de notre sentier. La volonté de Dieu, ça doit être forcément de nous faciliter la vie. Mais à la suite de notre texte et de bien d'autres textes dans les Écritures, nous devons affirmer ce matin que ce n'est pas toujours le cas. Alors oui, parfois, Dieu aplanit notre sentier, bien sûr. Mais parfois, il nous conduit dans l'épreuve. Il nous conduit dans l'impasse. Il la prépare pour nous. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a des leçons que nous ne pouvons que apprendre en face de la mer, dans les impasses. Quand nous sommes au bout de nous-mêmes, au bout de nos ressources, quand il est manifeste que nous n'y arriverons pas par nous-mêmes, alors Dieu peut agir et Dieu peut manifester sa gloire. Ce que Dieu désire, c'est que nous placions en toutes circonstances notre confiance en lui. Et quand nous sommes dans l'impasse, que nous regardions à lui et que nous nous attendions à lui en silence. Que nous restions fidèlement attachés au Seigneur, alors même que les circonstances semblent dire qu'il n'a pas été fidèle. Alors tout ce que je suis en train de dire, c'est la théorie. C'est vrai, mais c'est la théorie. Et vous savez comme moi que la théorie est toujours plus facile que la pratique. Mais la pratique aussi, c'est possible, par la grâce de Dieu. Pas avec nos forces, mais avec les forces que Dieu donne et avec ses interventions, parfois miraculeuses dans nos vies, quand nous sommes dans des impasses, où il nous a parfois conduits. Quatrième leçon, c'est qu'avec l'épreuve, alors je n'élabore pas beaucoup parce que c'est vraiment la suite du récit que nous n'abordons pas ce matin, mais avec l'épreuve, Dieu pourvoit toujours une issue. Nous le savons, Dieu va ouvrir la mer, il va délivrer son peuple, il va anéantir l'armée de Pharaon. Et avec l'épreuve, nous voyons que Dieu pourvoit une issue. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va le formuler dans son épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Si Dieu prépare toujours une issue, notons que le texte ne dit pas quand. Parfois, l'issue vient rapidement. Parfois, pas. Parfois, elle vient, mais pas comme je l'attendais. Pas comme je l'avais demandé. Mais il y a plusieurs choses qui sont sûres à partir de ce texte, et qui sont sûres, dit Paul, parce que Dieu est digne de confiance. Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre que toute tentation est humaine, est toujours humaine. Dieu nous permet, deuxième affirmation que nous tirons de ce texte, Dieu nous permet de supporter les épreuves qu'il permet dans notre vie. Et puis Dieu prépare toujours une issue. Cinquième et avant-dernière leçon, c'est que dans une impasse, nous avons malheureusement souvent la mémoire courte. Repensez à notre texte. Le peuple venait de vivre quelques jours auparavant quelque chose d'incroyable, une délivrance extraordinaire. Ça faisait des mois et des mois qu'ils voyaient toutes sortes de prodiges, qu'ils voyaient Dieu agir avec puissance. Ils ont été les témoins de cela, de prodiges tous plus extraordinaires les uns que les autres. Et devant la première difficulté, alors ce n'est pas une petite difficulté, on est d'accord, mais devant la première difficulté, on a l'impression qu'ils ont déjà tout oublié. Ils n'ont plus qu'une idée en tête, c'est de retourner en Égypte parce que c'était mieux là-bas. Mais ils ont oublié que Dieu est tout puissant. Qu'à Dieu, rien n'est impossible. Ils ont oublié que Dieu tient ses promesses. Alors oui, pour nous, c'est facile parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Et puis pour nous, c'est facile parce que, en tout cas, c'est facile de dire ces choses quand tout va bien. C'est beaucoup plus difficile quand nous sommes en situation, quand nous sommes en face d'un mur, en face de la mer. Combien il est important sur le chemin de la foi que nous fassions régulièrement mémoire, que nous fassions œuvre de mémoire, que nous comptions les bienfaits de Dieu. Et en particulier, c'est important que nous le fassions quand nous sommes dans une impasse, que nous nous souvenions des fidélités passées de Dieu, qui sont comme la garantie de celles qui sont encore à venir. Dans l'impasse, nous devons refuser la vision courte, qui ne voit que les circonstances présentes. Nous devons élargir notre champ de vision et englober les fidélités passées et toutes les promesses dont nous attendons encore la réalisation. La marche de la foi, ce n'est pas la marche par la vue. Ce n'est pas la marche qui ne regarde que le présent, mais elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait, sur ce que Dieu est en train de faire et sur ce que Dieu va encore faire. C'est tout ça, la marche par la foi. Attention donc au danger de la mémoire courte, et en particulier quand nous sommes dans une impasse. Et puis je termine avec cette dernière leçon, c'est que où que Dieu nous conduise, où que nous conduise la volonté de Dieu, Dieu est toujours avec nous. La colonne de nuée, la colonne de feu, on en reparlera, était le signe visible de la présence de Dieu. Et cette colonne précédait le peuple. Elle ouvrait le chemin, elle leur montrait le chemin. Dieu marchait devant son peuple. C'est d'ailleurs ainsi que le texte le dit, verset 21, « Le Seigneur marchait devant eux ». Et il est bon pour nous de nous souvenir que Dieu est toujours avec nous, que Dieu est toujours avec les siens, dans les bons comme dans les mauvais jours, au moment de la délivrance comme quand on est dans l'impasse. Et pour nous qui sommes après Jésus-Christ, il est avec nous par son Esprit. Et il est avec nous par Jésus-Christ qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, où que nous conduise sa volonté, Dieu est toujours avec nous. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.